La chronique de Pierre-Yves McSween, présentée par Ginsburg Gingras. Surmontez vos dettes. Contactez gratuitement un syndic autorisé en insolvabilité de Ginsburg Gingras. GinsburgGingras.com/dette.
Dans Bouchard en parle, voici Pierre-Yves McSween.
7h28, un petit peu de retard. Pierre-Yves, bon matin.
Salut.
Tu veux me parler du dossier des expos.
Oui, parce que...
Ça brasse, il y a du nouveau, là.
Oui, là, il y a une lettre de Lucien Bouchard.
En personne.
Monsieur Vachon, l'ancien des petits gâteaux Vachon, là, l'héritier de la fortune, qui est rendu président de la Banque nationale, et monsieur du Cirque du Soleil, monsieur Lamar. Et...
Attends un peu. Louis Vachon de la Banque nationale, c'est l'héritier des gâteaux Vachon?
Ben, d'après moi, oui, là. À moi, je m'attends.
J'ai jamais entendu ça de ma vie.
Attends, écoute, je m'ai peut-être fait le mauvais parallèle dans ma tête. On va aller valider pendant qu'on jase.
Attends pas. Non, je t'estime pas, Pierre, je te dis juste que tu me l'apprends.
Mais je pensais que c'était la même famille. Peut-être que je me trompe. Écoute, j'ai peut-être fait un petit.
On va googler ça
pendant que je te parle.
Donc,
et les trois, ils ont dit,
oui.
On appuie la continuité du projet dans une lettre envoyée pour valider que, dans le fond, appuyer M. Bronfman dans sa démarche. Et dans le fond, c'est comme un sophisme de l'appel à l'autorité. Tu vas chercher des gens qui représentent moralement le succès ou qui représentent moralement une autorité pour appuyer un projet. Donc, ils n'ont pas nécessairement le lien. Mais là, c'est sûr que M. Bouchard travaille pour un cabinet d'avocats. Monsieur Vachon travaille pour la Banque nationale. On s'entend, là. Il y a des gens qui ont peut-être des intérêts corporatifs là-dedans, au bout du compte. Mais, tu sais, c'est pas compliqué. Tout ce qu'on demande à Monsieur Bronfman, c'est de mettre carte sur table. Tu veux un projet public? Va nous dire c'est quoi qu'on veut. Tu sais, au moins, vous autres, avec l'amphithéâtre, vous avez été honnête.
Oui.
On veut un amphithéâtre, on n'a pas de club. Tu sais, on veut ça. Ça coûte tant. C'était clair. Du côté des expos, c'est moins clair. C'est du genre... En temps et lieu, on va parler cash. Excuse-moi, mais en 2013, il y a eu une étude de EY qui disait que le modèle hybride, fortement financé par le public et avec beaucoup de coûts de renonciation publique, était la voie possiblement atteignable. Alors, M. Bronfman, s'il n'y a pas le public à payer, si tu veux un terrain de 900 000 pieds carrés au prix que ça coûte à Montréal, on peut-tu savoir le dédommagement collectif qu'on va avoir? Ça va être quoi l'implication, les taxes qu'il pourrait y avoir, la captation foncière? Tout ça est une question ouverte. Et comme dirait un grand philosophe de ce monde, c'est-à-dire Jerry Maguire dans le film, Show me the money.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, ce que je trouve un peu curieux là-dedans, c'est de voir, bon, en passant, Louis Vachon, c'est effectivement le boss de la Banque nationale. C'est l'héritier des petits gâteaux Vachon.
Hey, je pensais que j'avais tenu erreur, tu m'as mis en question.
C'est bien correct. Mais Lucien Bouchard, lui, là, aussi a un passé, là. Et qui n'est pas les petits gâteaux Vachon. Lucien Bouchard était le premier ministre quand les expos ont quitté Montréal.
Et il disait que c'était pas question qu'on finance ça.
En passant, c'était juste avant. Pendant le débat, je sais qu'au moment où les expos quittent, il n'est plus là, mais au moment où on veut sauver les expos puis avoir un nouveau stade et de l'argent public, à ce moment-là, le boss, c'est Lucien Bouchard. Puis, il n'y a pas mis une scène.
Non, mais il dit déficit zéro. À l'époque, faut dire aussi qu'on était mal. Tu sais, c'est dur de dire aux infirmières, je vais vous couper, puis de l'autre bord, tu dis, on va donner ça aux millionnaires du baseball. Tu sais. Donc, évidemment, comme premier ministre, il y avait un autre chapeau. Là, il y a le chapeau d'un associé dans un cabinet d'avocats de Montréal. Et M. Bronfman à Montréal n'est pas un petit clin, on s'entend. Le fonds Claridge et tout ça, c'est quoi les impacts? Moi, j'aimerais ça savoir. M. Bronfman, ses proches, son fonds d'investissement, toute l'immobilisation qu'il possède au centre-ville et comment l'avenue des expos pourrait avoir un impact positif sur la valeur foncière de ces immeubles et la valeur marchande.
Il va falloir qu'on commence à parler de cash un peu là-dedans. Là. Ouais.
Non, oui, c'est bien beau avoir parlé de Yopi puis le Chant des rêves avec Kevin Costner. Là, j'aimerais ça qu'on parle un peu de finance.
Ouais, là, ils nous ont amené Warren Cromarty, puis André Dawson, puis Tim Raines. Toi, tu commences en tant que comptable, là, tu veux qu'on te présente un peu des chiffres, puis t'as raison.
Puis tu sais, dans la gang, là, je me souviens de Tim Raines,
oui,
mais pas Cromarty.
Tu te souviens pas de Warren Cromarty?
Non, moi, Rusty Stubb, Cromarty, j'ai pas connu ça. Moi, le plus loin, je peux reculer, là. Reculer, c'est quand on a échangé Gary Carter au Mets, là. Ça, c'est mon plus vieux souvenir des expos. Puis l'arrivée de Mark Langston.
Ouais, OK, ouais, là.
Qu'on avait laissé aller, puis ça laissait aller Randy Johnston, qui est devenu un des plus grands lanceurs du baseball.
Tu veux me parler également des jeunes femmes qui se font exploiter financièrement.
Oui, c'est un article du New York Post qui se base sur un sondage sur un site de finances personnelles, mais qui dit quand même 70% des femmes disent, des jeunes femmes, là, les millénariales, puis 50% des hommes du même âge disent avoir déjà été exploités ou abusés financièrement.
De quelle façon?
Mon Dieu, c'est beaucoup. Attention, l'exploitation et l'abus financier est parfois subtil. Je te donne un exemple. Un conjoint qui dépense trop et qui nuit à la réalité financière du couple, c'est de l'abus, parce que tu viens prendre la capacité d'épargne de l'autre. Un conjoint qui n'épargne pas pendant que l'autre épargne, ou vice-versa, c'est un abus des deux sens. Il y en a un qui épargne pas assez et nuit à la santé future du couple, et celui qui épargne trop aux dépens de l'autre nuit à la santé et l'indépendance de l'autre. T'sais, un partenaire incapable de garder un emploi. T'sais, un flambeau qui vivote toujours, qui finit toujours par se faire mettre dehors, puis que c'est sa blonde qui le finance ou son chum, parce que c'est pas de sa faute, hein, il aime pas ça ce qu'il fait, puis c'est donc pas facile. Puis... Mais ça, c'est une forme d'abus. Tu te fais subventionner par ton conjoint une fois ou deux, c'est correct. Mais quand c'est tout le temps comme ça, il y a une autre forme d'abus, tu fais sentir l'autre coupable. Ah ouais, hein, tu t'es acheté une sacoche. Ah ouais, tu t'es acheté un skidou. Ça, c'est... Si c'est ton argent, puis que l'autre te fait sentir coupable, c'est une forme d'abus. Bon, c'était au sens large.
Ouais, là, c'est ça. Là, on...
Mais tu peux aussi prendre en charge les finances du ménage et garder le contrôle. Exemple, tu dis à ta blonde ou ton chum, « Hey! » Je vais prendre toute ta paye puis tout ça là, puis je vais gérer ça pour toi là, les comptes conjoints tout ça, laisse-moi ça entre les mains. Ça, c'est de l'abus financier parce que tu peux te faire contrôler par la suite et pas avoir accès à tes propres comptes. Tu sais, en cas de séparation, c'est un peu fatigant. Faire pomper ton cash, ça se peut. Il y a aussi les cartes de crédit. Il y a des conjoints qui ouvrent des cartes de crédit à l'insu de leur conjoint ou en abusant du cautionnement de leur conjoint sans que le conjoint soit conscient ou consciente de la conjointe ou la conjointe que ça a un impact futur majeur. Il y a des gens qui convainquent l'autre d'ouvrir le solde hypothécaire. Il y a des gens qui forcent l'autre à contracter un emprunt auprès de la famille, mais qui remboursent jamais. Ça veut dire qu'il y en a qui cachent de l'argent aussi. Mettons que tu contrôles les finances, Sylvain, puis tu ouvres un compte en parallèle. Puis là, tu mets 10 % de tout ce qu'on gagne chaque mois dans un compte, tu comprends? Puis l'autre personne ne sait pas que le compte est là, mais il finit par avoir 10 000 dedans. Ça, c'est de l'abus financier.
C'est pas pour rien que tu sais que dans la moitié, on dit qu'à peu près la moitié des divorces, une des raisons, c'est des chicanes financières. Ouais. C'est peut-être parce que les gens se font des cachettes, tout ça. Tu sais, il y avait une expression autrefois, j'ai déjà vu des gens l'utiliser. Ah, dans mon couple, il y a une ministre des Finances. Là. Exemple, il y a des gars qui vont dire, moi, là, c'est ma femme, c'est elle qui est la ministre des Finances. Ou il y a des femmes qui vont peut-être dire l'inverse. Ah, oh, c'est mon chum, tout ça. Bon.
Le ministre des Finances, hein?
Et est-ce que, Pierre-Yves, tu conseilles pas au couple qu'il y ait deux ministres des Finances, ben, que en fait, les deux s'occupent de leur argent et pas juste le gars ou la fille de son bar qui décide de s'occuper de tout, là?
Mais surtout avec les enjeux d'aujourd'hui, il y a tellement d'endettement, puis il y a tellement surtout de séparation. Tu sais, la personne qui se sépare, qui sait pas combien elle a dans son compte ni d'actifs, des fois, je pense au monde, bon, comment ça va vos finances? Ah, je sais pas, c'est tout mon chum qui gère ça ou c'est toute ma blonde. Je dis, voyons donc, c'est dangereux, là. Ouais. C'est vraiment très, très, très dangereux parce que tu te réveilles un matin. Il y a quelques courriels que je reçois une fois de temps en temps. C'est des gens qui viennent de se réveiller. Est-ce que mon conjoint nous a fait acheter un skidoo, on n'avait pas les moyens. Finalement, on se sépare. J'apprends qu'il nous avait endetté de 30 000. J'apprends que j'apprends.
Ça, c'est des couples où il y a des ministres des Finances. Il y en a un des deux qui s'occupe de tout. Il y en a un, ouais.
C'est ça. Et d'ailleurs, Pierre-Yves, moi, une pratique que j'ai toujours trouvée bizarre, c'est les couples qui gèrent leur argent avec un seul compte de banque. C'est-à-dire que les deux payes sont déposées dans le compte conjoint. Est-ce que c'est pas mieux de garder une certaine indépendance par rapport à ton propre salaire?
Ben, avec le temps, je dirais que t'as raison sur une affaire. Il y a des gens qui veulent sauver de l'argent puis qui sont tellement fusionnels comme couple qui disent pourquoi payer trois comptes de banque. Moi, d'un autre côté, je me dis, le compte conjoint, les deux ont une mainmise dessus. Ce qui est le fun avec les comptes individuels, surtout quand vous n'avez pas d'enfants puis pas de fusion des actifs total, là, c'est que tu dis, écoute, en cas de problème, je vais donner le vrai problème, Elisabeth, le vrai, là, ton conjoint meurt.
Ouais.
Vous avez juste un compte conjoint. Sais-tu qu'est-ce qui arrive?
Quoi?
Le compte est gelé.
Ah oui?
Alors, tout le monde qui a un compte conjoint, qui a, tu sais, là, ton conjoint meurt subitement d'un accident, t'as même pas accès à ta paye. C'est un compte conjoint, lui est mort, faut protéger les actifs de la succession.
Ouais.
T'as-tu pensé? Le brouhaha, ta paye se dépose dans le compte conjoint qui est gelé. Là, t'as 2-3 000 que t'as pas accès, ta marge de crédit à ta conjointe, tu sais, honnêtement, juste pour cet argument-là.
Merci.
Parce qu'on peut mourir.
Merci, oui.
Salut.
Merci, 7h37 au FM 93. Une très courte pause.
La chronique de Pierre-Yves McSween, présentée par Ginsburg Gingras. Surmontez vos dettes. Contactez gratuitement un syndic autorisé en insolvabilité de Ginsburg Gingras. GingsburgGingras.com/dette